Et vous peignez quel genre de peinture?
Ils m'ont dévoré, les artistes. Renversé. J'ai plus de défense. Même un ticket de métro joliment plié, ça m'émeut.
J'adore l'abstrait.
Cette année, le visage d'Exporama, c'est celui d'une jeune fille aux yeux grands ouverts. Des yeux peints par l'artiste rennaise Charlotte Vitaioli, dans lesquels se reflète un paysage maritime ensoleillé. Dans nos yeux, à Scilab se réplique un panorama d'art contemporain dans lequel nous vous invitons à plonger, avec regard sonore sur Exporama, une série réalisée par Héloïse Descartes, zoom sur 4 expos sélectionnées parmi la programmation de l'événement estival dédié à l'art contemporain à Rennes. Épisode 4, Aérosol, une histoire du graffiti. Nous en avons tous déjà vu, voire déjà fait, les graffitis sont omniprésents dans nos cahiers, nos transports en commun et même dans nos rues. Mais connaissons-nous vraiment leur histoire? Retour sur plus de 60 ans de bombage à main levée, une histoire décortiquée au Musée des Beaux-Arts de Rennes aux côtés de Claire Lignereux, responsable art moderne et contemporain au musée et coordinatrice d'Exporama.
C'est vraiment l'outil de la bombe aérosol qui va être notre fil conducteur. En tout, on en a plus de 200 dans l'exposition. Les bombes aérosol, c'est développé beaucoup dans les années 40. À la base, c'est pas du tout pour de la peinture, c'est notamment pour les insecticides. Les peintures en aérosol, elles sont commercialisées à partir de la fin des années 50. Et à la base, c'est pas pour aller peindre dans les rues, c'est pour repeindre sa carrosserie de voiture, pour repeindre son radiateur. Donc on va vraiment être dans une logique de détournement d'outils. Et d'ailleurs, pas mal de marques vont d'abord être un peu gênées par l'usage illicite qui peut être fait pour écrire ou peindre dans les rues. Les premiers qui vont se saisir de la bombe pour faire autre chose que repeindre son radiateur et plutôt pour aller écrire sur les murs, c'est tout ce qui va être slogan « bombé dans les rues ». Ça apparaît dès les années 60 et ça va considérablement s'amplifier avec mai 68. Donc là, par exemple, devant nous, on a une série de photos, mais également des affiches de mai et juin 68 qui montrent des slogans bombés dans la rue avec des phrases qui restent complètement dans notre imaginaire, hein, comme « sous les pavés, la plage »,« étudiants solidaires des travailleurs », etc. Cet usage politique va commencer à intéresser des artistes. Certains qui vont collecter des graffitis dans la rue, qui ont été faits par d'autres. Et puis, il va y avoir, à partir des années 70, des artistes qui prennent eux-mêmes la bombe et qui commencent à créer avec. Notamment Ben. Je pense que vous connaissez tous l'écriture de Ben. C'est très reconnaissable. C'est décliné sur tout un tas d'objets du quotidien. Et ben, il faut savoir que Ben, il a commencé dans les années 60 à écrire sur les murs. Il commence avec un pot de peinture et un pinceau. Et puis assez rapidement, il va passer à la bombe aérosol. C'est beaucoup plus efficace, c'est plus maniable, c'est plus léger, c'est plus facile à cacher. Et donc là, on a des photos des années 70 où on le voit qui souligne les petits défauts du paysage urbain quotidien. Par exemple, là, il y a une vitre qui est cassée et il met une flèche et il écrit « cassé ». Dans les années 80, il y a vraiment quelque chose qui se structure, des mouvements artistiques, des techniques qui s'implantent avec plusieurs artistes. D'une part, les pochoirs, on découpe dans un carton et on s'en sert comme matrice pour pouvoir ensuite aller bomber des images vite fait, bien fait dans les rues qu'on peut reproduire à l'infini. D'autre part, ce que le grand public appelle souvent le tag, sauf que le tag, c'est un peu plus spécifique que ça, c'est quand on a une signature qui est faite vite fait, mais à partir du tag, se développe aussi toute une culture du lettrage, du graffiti writing, qui va être beaucoup plus artistique, avec des recherches sur la calligraphie, sur les dégradés de couleurs, les effets d'ombre, de volume, etc. Ce qui fait que cette signature initiale devient vraiment un objet artistique. Ça s'est développé à New York et à Philadelphie dans les années 70, en particulier dans les quartiers populaires comme le Bronx, les quartiers afro-américains, et en particulier sur les rames de métro. Ça permettait aux jeunes des banlieues, typiquement, d'acquérir de la visibilité et de faire circuler leur nom, ou plutôt leur pseudonyme, sur les rames de métro d'un bout à l'autre de la ligne, donc ça traversait toute la ville en fait. Cette culture-là, ensuite, elle va être importée en France et reprise par pas mal de jeunes artistes en France. L'élément déclencheur, ça va être l'arrivée de la culture hip-hop. Là, derrière vous, vous avez une grande toile qui a été peinte par Futura 2000 sur la scène du Bataclan, lors du spectacle du New York City Rap Tour en 82. Futura 2000, il fait vraiment partie de ces graffeurs américains qui vont faire connaître le graffiti à l'américaine en France, même si lui, on le voit, il n'est pas trop dans les lettrages, hein. Il fait quelque chose de beaucoup plus abstrait, avec voilà, des arcs de cercle, des ronds, des formes qui flottent, le tout très très coloré, très énergique, ça part un peu dans tous les sens. Ça va être un choc pour plein de jeunes qui le voient sur scène, qui trouvent que c'est magique, c'est très fluide, on a presque l'impression que la peinture sort de ses doigts. En Bretagne, où on voit que c'était surtout les pochoiristes qui étaient à l'œuvre et qui recouvraient les murs dès le milieu des années 80 à Rennes. Des artistes comme Yéman, comme Lollipop. On a ici un petit ensemble d'œuvres et de photographies, d'affiches et de matrices concernant les transmusicales de 1986. Parce que cette année-là, il y a plusieurs pochoiristes parisiens qui viennent, en l'occurrence Blake Lerat, Mystique et Marie Rouffet. Et donc ils sont actifs à Rennes pendant les transmusicales, ils performent dans les salles de concert, mais ils font aussi plein de pochoirs dans la rue, et on a même un capot de voiture, puisqu'il y a quelqu'un qui croise Blake Lerat, qui lui demande de faire des pochoirs sur sa voiture, et le véhicule est depuis longtemps à la casse, mais il a gardé le capot en souvenir. On a voulu faire une ouverture jusqu'à nos jours. Ça pose aussi cette question de la transition entre la pratique illicite dans la rue, dans des dépôts, au bord des voies ferrées, et le passage à une carrière artistique qui pourrait faire vivre, parce qu'à un moment, il faut bien vivre aussi. Aujourd'hui, on est toujours dans ce paradoxe-là, avec des institutions qui, à la fois, condamnent un peu l'usage vandale, parce qu'après, on est obligé d'aller nettoyer les murs, mais reconnaissent la valeur artistique de ce qui est fait. Donc, dans le même temps, il y a certains tags qu'on va effacer, mais ailleurs, on va commander des œuvres sur des murs. On reste dans l'ambiguïté, mais qui est inhérente, puisqu'effectivement, on est dans un art qui se développe aux marges de l'illicite.
En écho à l'exposition, visible jusqu'au 22 septembre, les graffeurs Jeff Aerosol et John Wan peignent cet été le mur, MUR, pour modulable urbain et réactif, situé rue Vasselot. Au même moment, l'artiste Olivier Chaos s'empare lui aussi du mur du couvent des Jacobins de la rue d'Échange.